chapitre 73. C'est l'anniversaire de mariage de mes parents. 41 ans ensemble, ça force le respect. Ils ont voulu fêter l'événement avec nous. Emma ne peut toujours pas se lever. C'est donc chez elle que cela se passe. Allongée sur sa méridienne, moulée dans une robe longue, elle caresse son ventre comme s'il s'agissait d'une boule de cristal. Il est énorme. Jamais on ne croirait qu'elle n'est enceinte que de 7 mois. Même pour la grossesse, il faut qu'elle fasse mieux que les autres.
Il bougeait beaucoup à la dernière échographie. La sage-femme n'a jamais vu ça. Elle pense que ce sera un petit footballeur.
Ou un danseur,
dit mon frère.
Ah non,
intervient mon père.
Les danseurs, c'est tous des pédés.
Je vois l'effroi passer dans les yeux de Romain et de Thomas. Mon père les laisse ainsi plusieurs secondes et, quand ils sont proches de la combustion spontanée, il éclate de rire, fier de sa blague.
Vous avez de la chance que je ne m'attaque jamais au grabataire, Patrick,
rétorque Thomas hilar. Mon téléphone sonne au moment où mon père sable le champagne. Je sors prendre l'appel. C'est Nathalie.
Je te dérange pas ?
Non, on fête l'anniversaire de mariage de mes parents chez ma sœur.
Ah ah, je t'ai fourni un bon prétexte pour t'éclipser alors.
Même pas. Tu me crois si je te dis que je passe un bon moment ? Pendant qu'elle glousse, je fais quelques pas dans le jardin et me poste devant la fenêtre. À travers les rideaux, j'observe ma sœur qui en fait toujours trop, ma mère qui n'en fait pas assez, mon père qui est toujours sur un fil, mon frère qui manque de confiance en lui, et j'éprouve un élan de tendresse pour cette famille imparfaite à laquelle j'appartiens. Cette famille qui m'accepte, moi, l'imparfaite en chef. Il faut que j'arrête ma thérapie, je crois qu'elle est en train de me rendre gnangnan.
Tu peux continuer un peu, t'as de la marge,
ricane-t-elle. Sinon, tu voulais quoi ? Elle voulait prévoir une soirée surprise pour l'anniversaire de Julie. Nous prenons quelques minutes pour monter un guet-apens foireux, notre spécialité, et je retourne à l'intérieur. Au dessert, ma mère est légèrement pompette. Enfin, légèrement. Elle est aussi imbibée qu'une éponge après un dégât des eaux. Lorsqu'elle cogne fort son couteau contre sa flûte pour réclamer l'attention, nous passons tous en mode inquiet.
Avec les récents événements, j'ai pris conscience de quelque chose, déclare-t-elle d'une voix étonnamment claire. Il y a longtemps, je vous ai caché la vérité pour vous protéger. Je crois que cela a eu l'effet inverse.
Thomas se racle la gorge.
Je vais aller fumer une clope,
lâche-t-il en se levant. Ma mère lui fait signe de se rasseoir.
Tu peux rester, Thomas, ça ne me dérange pas.
Et puis ce serait con que tu te mettes à fumer à 30 ans,
ajoute Romain. Thomas se rassoit, ma mère poursuit.
Je n'ai eu qu'un seul rêve dans ma vie, être une bonne mère. J'ai attendu que vous soyez tous les trois à l'école pour reprendre mes études et devenir sage-femme. J'ai toujours fait en sorte que vous ne manquiez de rien et surtout, j'ai essayé de vous protéger. Je voulais vous cacher les côtés sombres de la vie le plus longtemps possible. Je voulais que vous soyez heureux.
Elle hoquette. Je regarde mon frère, il a les yeux brillants.
Il y a 20 ans, j'ai fait une grave dépression. Je ne connais pas exactement les causes. Je me suis sentie glisser pendant des mois, je n'arrivais plus à gérer le boulot, les enfants, papa qui buvait beaucoup. Je me sentais dépassée. Petit à petit, j'ai perdu le goût de tout. Je n'avais plus de patience, je devenais une autre.
Elle s'interrompt, boit une gorgée et reprend. Aucun de nous ne bouge, de peur de casser son élan.
Un matin, on était en route pour l'école. Vous vous chamailliez dans la voiture. J'ai ressenti une pulsion effroyable. Je me suis vue tourner le volant d'un coup sec et nous encastrer contre un mur. Vraiment vue. Je ne sais pas comment j'ai réussi à résister. Je ne suis pas allée travailler. Je suis rentrée à la maison, j'ai tout raconté à papa. On a beaucoup réfléchi. On a pris la seule décision qui s'imposait. Je vous ai laissé un mot. On a décidé qu'il ne valait mieux pas vous dire que j'allais mal pour ne pas vous perturber. Je suis restée hospitalisée presque 1 an. J'avais de vos nouvelles par papa, vous me manquiez terriblement, mais j'attendais d'être totalement remise, de ne plus être un danger pour vous, pour revenir.
Elle fait une nouvelle pause. Le silence est tel qu'on entend sa salive passer dans sa gorge.
Je ne regrette pas de m'être éloignée, je crois que c'était la seule chose à faire. Mais j'aurais dû vous dire la vérité. On accepte plus facilement les choses que l'on sait que celles que l'on ignore. En voulant vous protéger, j'ai fait le contraire. J'ai toujours gardé cette culpabilité d'avoir détruit ma famille. Mon père passe son bras autour de ses épaules. Mon frère, ma sœur et moi ressemblons à des statues de cire. Je me suis souvent demandé où était passée ma mère pendant cette année 1995. J'ai tout envisagé. Qu'elle était partie avec un autre homme, qu'elle avait eu une maladie, qu'elle ne nous supportait plus, qu'elle avait honte de mon poids. Je crois que j'aurais pu lui pardonner tous les scénarios si j'avais su. Ne pas savoir donner toute liberté à l'imagination. Dans la tête d'un enfant, la culpabilité vient souvent s'incruster. Dans la tête d'un enfant, la culpabilité peut tout détruire. J'ai envie de lui dire que je ne lui en veux pas, qu'elle a fait comme elle a pu, qu'elle a été la meilleure qu'elle pouvait être avec les cartes qu'on lui avait distribuées. J'ai envie de lui dire que ce n'est pas que de sa faute si la famille s'est délitée. Mais tout ce que je parviens à faire, c'est me mettre à pleurer bruyamment. Le chagrin contenu depuis si longtemps s'évapore dans les larmes. Je suis une cocotte minute en fin de programme. Tous les regards sont braqués sur moi. J'essaie de reprendre mon souffle, mais c'est impossible. Alors, pour les rassurer, j'articule entre deux hoquets.
Ne vous inquiétez pas, c'est juste du soulagement.